régime, l'auteur qui court après sa rime, la bavarde qui fait du mime. Cherchez pas, c'est pour moi, lâchez-moi, j'ai déjà donné. J'en ai assez de vous bercer, il faudra toute la journée que je materne. Lâchez-moi, ça finira mal. Je ne suis pas un confessionnal, c'est de l'invasion cérébrale, ça me consterne, j'ai mal. Mais ce qu'on voudrait voir fleurir, ce qu'on rêve avant de dormir, ce dont on aime le sourire, où sont-ils? On ne les voit jamais pleurer, c'est à la pince à épiler qu'il faut leur tirer leurs secrets, c'est facile. Ils n'arrosent pas mon paillasson, apprennent tout seuls leurs leçons, ignorent vraiment sans façon leur nombril. Les qui n'ont pas le temps d'être tristes, les qui avouent quand on insiste que le bonheur parfois résiste. Je les cherche, où sont-ils? Lâchez-moi, vous me piratez. En moi vous prenez vos quartiers, en plus vous me barricadez contre les autres. Lâchez-moi, car vous me ruinez. Moi en matière d'amitié, je ne suis pas un gros banquier, mais j'ai mes pauvres cachés. À force de le répéter, je finirai par m'inventer un égoïsme forcené, vous verrez. Je boufferai le récepteur du téléphone et quel bonheur, j'assassinerai le facteur, vous verrez. Je ne vous écouterai plus, je vous laisserai vous pleurer dessus, là vous ne serez pas déçus, vous verrez. La grande sourde qui ricane, l'indifférence à l'œil qui plane, l'écluse qui a fermé ses vannes, ce sera moi, vous verrez. Lâchez-moi, laissez-moi souffler. Je ne suis pas votre bouée, apprenez plutôt à nager, c'est plus utile. Lâchez-moi, et peut-être un soir, j'aurai envie de vous revoir. Je dirai, ils sont en retard, c'est difficile, mais j'en garde l'espoir.
Lâchez-moi, Alcine Vestre, Ménage-toi sur Radio Zoo 93.8. Nous sommes en train de parler du travail ménager.
Je disais que dans notre émission, nous aimerions, par exemple, nous rendre compte de la bêtise, par exemple, que ça représente pour une mère de famille de dire « non, je ne travaille pas lorsqu'on lui demande sa profession à l'occasion de, je ne sais pas, quand il faut remplir un formulaire ou lorsqu'on lui demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ». Et ça, nous le faisons toutes sans réfléchir. Et c'est parce que nous contribuons toutes à cacher cette partie-là de nous-mêmes. Et nous cachons à nous-mêmes et aux autres ce travail-là. Dans cette émission, nous avons envie de parler de ce qui se passe dans les maisons. Nous avons envie de parler de la vie des mères, de la vie des enfants, du partage des tâches entre hommes et femmes, de la double journée de travail que la plupart des femmes ont eu l'occasion dans leur vie de devoir affronter. Nous voulons parler des sentiments qui sont en jeu dans les rapports domestiques. Rapports domestiques qui sont des rapports de travail pour les femmes, mais qui sont aussi mille et une autre chose, qu'elles ont aussi mille et autres dimensions. Nous invitons les femmes qui nous écoutent et qui nous écouteront par la suite tous les mercredis matins à partir de 10h à s'interroger avec nous sur toutes ces petites et grandes questions qui tournent autour de notre vie à la maison, dans le monde non marchand, dans le monde de la reproduction de la vie et des énergies humaines, qui est un monde qui repose encore et toujours essentiellement sur les femmes. Par exemple, nous aimerions nous interroger sur nous-mêmes, sur ce que nous faisons, nous, en tant que femmes, au nom de l'amour, dans les relations que nous avons au nom de l'amour avec les hommes, avec les enfants, avec les parents, avec le travail salarié et avec la société tout entière. Effectivement, comme je disais avant, on s'interroge sur comment parler du travail domestique sans tomber dans les impasses dont j'ai parlé tout à l'heure, et sans tomber aussi dans des clichés qui sont dépassés, dans des stéréotypes dans lesquels on ne peut plus se reconnaître. Il y a 20 ans, et certaines femmes qui nous écoutent peuvent peut-être se rappeler de ça, Betty Friedan, une féministe américaine, avait écrit un livre qui s'appelle « La femme mystifiée », où elle décrivait la vie des femmes comme une vie de ménagère, comme une vie de mère de famille super aliénée, comme une vie vide de sens, une vie source de névrose et de frustration. C'était très important, c'était la première fois qu'on analysait si bien, si concrètement, sans faire des analyses trop théoriques. On analysait si bien la vie des ménagères. Et c'était la première fois qu'on mettait le doigt là où il fallait pour décrire l'oppression des femmes. Et c'est pas par hasard que cette analyse est sortie au moment même où les femmes étaient prêtes à se révolter. Et ce fut le début du MLF aux États-Unis. Maintenant, nous sommes en 1986. Et 20 ans après, nous ne sommes plus très nombreuses à nous reconnaître dans cette analyse qui portait sur le malaise des ménagères, et cela parce que les femmes ne sont plus que des ménagères. Les femmes occidentales, les femmes des pays riches, en 20 ans, elles ont eu le temps de prendre conscience de beaucoup de choses. Nos problèmes ont changé, parce que nos vies ont beaucoup changé, et nous ne pensons plus comme nos mères ou nos grands-mères, et nous ne vivons plus la même vie qu'elles. Je pense que les problèmes que les femmes et que le mouvement des femmes se posaient il y a 20 ans ne sont pas pour autant résolus, mais je pense qu'ils se présentent différemment. Au problème des ménagères isolées, aliénées par la TV, vivant une vie sans intérêt, pleine de frustration, problème qu'il est vrai qu'il reste réel pour une certaine catégorie de femmes, mais qui sont posées un peu trop comme un cliché à l'américaine, se sont posées actuellement des problèmes, des images pour les femmes très différents et bien plus actuelles et bien plus partagées par la majorité des femmes. Ce sont des problèmes qui se rattachent tous, de près ou de loin, au problème du travail salarié. Parce que les femmes, entre-temps, ont pu faire cette expérience, ont pu, une fois ou l'autre dans leur vie, avoir un travail. Et les problèmes qui se posent actuellement, c'est par exemple quelle formation professionnelle on reçoit quand on est encore toute jeune, quelles possibilités nous avons d'étudier, d'avoir des bourses lorsqu'on est adulte. C'est le problème du rapport au travail salarié lors de la naissance des enfants. C'est vrai, on se pose toute la question, est-ce qu'on arrête ou pas de travailler, est-ce qu'on va travailler à temps partiel ou pas. C'est le problème du rapport de couple lors de la venue des enfants, le problème du partage du travail domestique avec les hommes, mais aussi le problème du partage de toutes sortes de responsabilités au niveau du couple et de la famille. C'est le problème du retour en emploi lorsque les enfants ont grandi. C'est le problème de ne pas avoir des enfants. C'est la question qu'on se pose de combien d'enfants on peut avoir, vu que la responsabilité des enfants retombe essentiellement sur les mères et que les femmes ne sont peut-être plus si prêtes qu'on le croit à se sacrifier pour eux ou pour la carrière du mari. Actuellement, c'est vrai, les problèmes ont changé, ils se posent différemment, et on se pose le problème de la garde des enfants, du double travail, de la course entre le travail et la maison, le problème de ne plus réussir pour beaucoup de femmes à avoir une vie professionnelle si elles ont des enfants, lorsqu'elles sont engagées dans une carrière, dans un travail intéressant et prenant. C'est le problème que se posent toutes les femmes qui ont arrêté de travailler parce que le travail qu'elles faisaient était peu intéressant et mal payé. Là aussi, il y a un problème. Il y a des femmes qui ont arrêté parce que c'était pour elles plus intéressant de rester à la maison, mais elles se trouvent aussi là devant une impasse et devant un monde clos. Et on se pose aussi le problème pour les mères de famille qui, pendant une longue période de leur vie, elles ont exercé le métier de mère de famille, elles ont exercé des qualifications, elles ont fait preuve de responsabilité, qui ne sont absolument pas reconnues au moment où elles veulent retourner en emploi. Et on se demande bien qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre curriculum vitae quand on reprend le travail à 40, 50, après 40 ans et qu'on a arrêté pendant 20 ans. Quand les qualifications acquises et exercées pendant la maternité ne sont apparaissent comme ridicules et absolument pas prises en compte par les patrons. Donc tous ces problèmes nous permettent, si on les regarde sous ce point de vue, nous permettent d'entrevoir que l'image et la réalité des femmes en 1986 se sont modifiées. Et pour les regarder de plus près, nous, à Ménage-toi, nous proposons de prendre des jumelles très spéciales, des jumelles qui nous permettent de relier le monde du travail domestique avec le monde du travail salarié. À œil nu, nous voyons deux mondes séparés. Lorsqu'on réfléchit spontanément sur les choses, nous voyons deux mondes séparés et on les sépare trop. Parce que la mentalité ambiante, elle est faite comme ça, et aussi parce que nous avons une manière de penser, qui est à mon avis fausse. Si on regarde les choses avec les jumelles que nous vous proposons, ce ne sera plus deux mondes séparés que vous verrez, mais vous verrez des femmes au carrefour de ces deux mondes, un pied dans l'un, un pied dans l'autre, des femmes tiraillées, surchargées et surtout des femmes changées par rapport à ce qu'elles étaient il y a 20 ans, au début du mouvement de libération des femmes, au moment où on se posait pour la première fois des questions. Et c'est vrai, le temps où la majorité des femmes étaient des ménagères à vie, où le mari ramenait le salaire et la femme s'occupait du ménage et des enfants, ce temps-là est bien révolu, ça existe encore. Mais le mariage de ce type-là n'est plus le destin presque obligé des femmes et il ne représente surtout plus cette situation de sécurité matérielle qu'elle a représentée pour nos mères ou pour nos grands-mères. On n'est plus du tout sûr, lorsqu'on se marie, que cette situation dure. Les mariages ne durent plus, les salaires des hommes ne suffisent plus. Et cela non seulement dans les classes ouvrières, chez les ouvriers, mais aussi chez les employés, dans les classes moyennes. Les femmes vont travailler pour trouver une indépendance économique, pour trouver d'autres horizons, pour vivre des expériences sociales différentes que les relations privées qu'elles peuvent vivre dans leur ménage. Mais elles vont aussi travailler parce que les salaires du mari ne suffisent plus. Et avec nos jumelles, nous voyons aussi que le travail domestique est toujours un travail réservé aux femmes, que ce soit dans nos sociétés riches et développées, que ce soit dans les pays pauvres et sous-développés, que ce soit aussi dans les pays socialistes et communistes. Partout dans le monde, il y a une sphère du travail, la sphère des activités domestiques, qui reste la prérogative des femmes, elle reste le domaine des femmes, malgré tous les changements sociaux, malgré tous les changements économiques intervenus depuis un siècle, changements qu'on peut vraiment dire qui ont été très très rapides et très très importants. Mais cette activité qui est à la source de toutes les richesses reste un travail non reconnu, dévalorisé, caché, et de plus en plus, elle reste un tabou parce qu'elle est invisible dans nos sociétés occidentales. Et nous, les femmes, et je me mets dedans, on est toutes un peu responsables, bon, c'est pas le mot juste, mais on participe toutes un petit peu de ces cachotteries, de cette manière de cacher cette activité. Alors, pour les prochaines émissions, on se propose d'aller plus au fond dans ces questions, et de réfléchir au lien qu'il y a entre travail domestique et travail salarié. Et on se propose de ne plus séparer ces deux choses. Et notre devise sera le travail des femmes est domestique et salarié.
Ménage-toi sur Radio Zone 93.8, Lucide Beausonge, l'Africaine. Ménage-toi sur Radio Zone 93.8. Nous attendons Ménage-toi du temps, c'est aussi se ménager du temps pour lire. Et aujourd'hui, Barbara nous parle d'un livre d'Annie Ernaux, La Place.
Alors, dans ce livre, Annie Ernaux se raconte elle-même. Et surtout, elle part du moment où son père meurt. Et elle s'arrête un moment et elle essaye de regarder un peu en arrière dans sa vie, de voir quelles sont ses racines, d'essayer de retrouver ses racines. Et elle sent qu'en allant chercher l'image du père, elle se rend compte qu'elle a vraiment de la difficulté par rapport aux échelles sociales et qu'elle se sent déchirée dans sa vie à elle, dans sa vie d'enseignante à l'université, dans sa vie de mère bourgeoise, dans un milieu bourgeois, c'est elle qui utilise ce terme, par rapport à sa vie, son passé, d'un milieu très modeste. Son père est parti de travailleur manuel pour arriver à commerçant, avoir son propre magasin. Et elle parle aussi, et j'aime beaucoup quoi, ce terme, elle parle de son père comme quoi dans sa vie, il a vraiment cherché aussi sa place au soleil. Et elle cherche la sienne et elle cède de son passé. Et elle retrouve petit à petit, elle retrouve des faits très précis, des dialogues avec son père, des regards, des choses qui se sont vécues et qui sont toujours très très proches de la nature. Ils faisaient des balades ensemble, ils traversaient la rue ensemble. Enfin, c'est toujours des rapports en fait très forts et très denses entre les deux, mais où il n'y a pas beaucoup de dialogue. Et justement, elle se sent très seule par rapport à ça. Parce qu'elle sent qu'il y a impossibilité de communiquer entre les deux mondes, le monde de ses parents, il ne reste plus que sa mère, mais de son père, de son vivant, et son monde à elle, elle qui apprend à s'exprimer, elle qui apprend à lire des livres, à avoir des idées sur plein de choses, et elle n'arrive pas à communiquer ça à ses parents, et quelque part, elle sent que pour ses parents, elle est dans un autre monde, elle est un peu dans l'au-delà, c'est-à-dire que son père un peu la... Je ne sais pas si le terme est un peu fort, quoi, mais la mystifie un peu en disant elle est à l'université, ma fille est professeure, et que dans son milieu à lui, dans son village à lui, ce n'est pas forcément une chance. C'est-à-dire que ses amis sont presque un peu méfiants par rapport à cette fille-là, et elle se sent justement, elle se sent déchirée, et j'ai l'impression que dans ce livre, elle remonte un peu, elle a besoin de remonter dans ses racines, elle a besoin de retrouver son père, elle a besoin de se situer pour après retourner dans son monde qu'elle vit actuellement et de s'y trouver bien.
Vous êtes toujours à l'écoute de Ménage-toi, Ménage-toi sur Radio Zoo 93.8. Et aujourd'hui, Barbara nous parle d'un livre d'Annie Ernaux, La Place.
Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as vraiment donné envie de le lire en me disant « Oui, t'as vu ce livre, moi je me souviens, j'ai beaucoup aimé, alors qu'est-ce que t'en penses ?»
Oui, bon, bah, moi je l'avais lu dès qu'il était sorti en 84 et c'est vrai que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée. Je ne sais pas si c'est parce que je me suis particulièrement identifiée à la narratrice, mais c'est vrai que le rapport qu'elle avait avec son père, cette espèce de décalage qu'elle ressentait dans le milieu dans lequel elle vivait, présentement, c'est-à-dire par ses études, elle était devenue enseignante, elle avait marié quelqu'un qui, comme tu le disais, elle qualifie de bourgeois, elle ne se sentait pas à l'aise dans ce milieu bourgeois, et en même temps, elle était plus à l'aise dans son milieu familial, et c'est en effet ça qui m'a beaucoup touchée, la manière dont elle raconte aussi le rapport qu'elle avait, la relation qu'elle avait avec son père, une relation intense. Moi, j'ai été très émue, vraiment. Et ce qui m'a beaucoup frappée, c'est que ce style dépouillé, pas de surenchère, pas d'adjectif pour qualifier toutes les situations. Mais en même temps, je ne sais pas comment... Pour moi, c'était magique, ce style très simple, très dépouillé qui m'a émue.
Ouais, qui rentre dans le vif du sujet, vraiment, quoi. C'est vrai qu'elle utilise des termes très terrien, quoi. Vraiment, c'est marrant en lisant le livre, quoi. J'avais vraiment l'impression de voir le terroir, le village. Enfin, aussi, moi, je trouve qu'on arrive bien à se visualiser. Je sais pas comment tu l'as vécu, mais
oui, tout à fait. C'est pas, y a pas de suspense, c'est pas extraordinaire comme histoire. C'est une histoire assez quotidienne, mais on se la visualise très bien. Du reste, l'épicerie et tout ça, les rencontres qu'elle fait, et aussi, alors, ses émotions. Moi, je trouve que ça passe très très bien. Et puis non, moi, c'est sûr que c'est un livre que je conseille vivement à toutes de lire. Donc, Annie Ernaux Laplace, publiée chez Gallimard. Elle a aussi écrit, du reste, je crois, d'autres ouvrages.
Oui, bon, elle en est à son quatrième. Alors, les trois premiers ont des titres déjà très drôles, ça donne envie de les lire. Le premier, c'est « Les armoires vides ». Le deuxième, c'est « Ce qu'ils disent ou rien ». Et le troisième, c'est « La femme gelée ».
Donc, nous vous conseillons Annie Ernaux Laplace, publiée chez Gallimard, un livre que vous trouvez dans toutes les librairies, et plus particulièrement à la librairie Femmes, l'Inédite, qui se trouve 26 avenue Cardinal Mermillot, à Carouge.
And the sweet